On aura l'occasion de prier pour eux pendant le temps de scène et de les soutenir tout au long de l'année et de participer aussi peut-être en fonction de ce que le Seigneur met sur vos cœurs. Je pense que parfois on ne sait pas forcément donner beaucoup, mais parfois, même si mensuellement, on donne quelques euros. On veut que ce soit des initiatives aussi personnelles. C'est bon de se dire, oh oui, moi, j'ai aidé telle œuvre, telle personne. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, on veut aussi penser à la maman. C'est bon de voir les plans de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, on va peut-être pas tous à Jérusalem, mais on a tous notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie, et puis peut-être les extrémités du monde. Ne restreins pas l'appel de Dieu dans ta vie, quel que soit ton âge. Les petits retraités parmi nous, j'aimerais vous dire que le Seigneur m'interpelle et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne vais pas les dire maintenant, mais vraiment, c'est pas fini pour vous. Étudiez le thème de la retraite dans l'Écriture. Ça n'existe pas. Ok, donc. N'enfermons pas le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, ça fait quelques semaines, hein, même si on a fait déjà un petit temps qu'on est rentré, mais quelques semaines plus prêchées, donc ça fait une retrouvaille. Donc je voudrais juste poser un cadre qui va nous servir pendant, je pense, quelques semaines. Tellement le fardeau est important. J'ai pu écouter tout ce que vous avez reçu, et puis le week-end passé, avec la venue de Dan, je pense que tellement de choses fortes qui ont été partagées. Tellement de choses fortes. Et je vous invite à les recevoir avec sérieux. Je prends un exemple. En 4 semaines, il était question 3 fois du pardon. Oh, peut-être que quelques-uns sont des irréductibles gaulois qui ne veulent pas pardonner aux Romains. C'est possible. Gère ça devant Dieu. Ne laisse pas flétrir ta vie par le refus du pardon. Mais, en discutant avec plusieurs le week-end passé, plusieurs se rendent compte, je ne m'imaginais pas que je n'avais pas pardonné. Je ne me rendais pas compte que j'étais tenu inconsciemment. Donc, demande au Seigneur, peut-être, montre-moi, Père, s'il y a des choses que je ne lâche pas. Des blessures qui sont là enfouies, une frustration, quelque chose que je ne parviens pas et qui bloque notre existence. Hein, recevons toutes ces paroles avec des cœurs entiers, des hommes et des femmes qui veulent vraiment s'aligner à la volonté de Dieu. Nous avons un maître, nous avons comme modèle quelqu'un qui, alors qu'on était en train de mettre les clous dans les mains, était déjà habité par cette mentalité. Oh, pardonne-leur. Ça, c'est notre modèle. C'est nous qui avons les nuits hantées par les blessures du passé. Voilà quelqu'un qui pouvait dire, Seigneur, pardonne-leur. Ne retiens pas. S'il te plaît, même mes bourreaux, sauve-les. Même ce brigand-là qui pendant une partie de la journée m'a insulté, s'il te plaît, fais-le rentrer dans le royaume. Oui, c'est pas des informations. Dieu a une thérapie dans la vie de l'Église. Et quand les frères et sœurs, les prédicateurs, les enseignants se laissent conduire, alors je crois que l'Esprit vient soigner là où il le faut. On va continuer et on va, je pense, aller plus loin ensemble. Voilà le fardeau. Il y a beaucoup d'images qui décrivent l'Église. Pas l'Église en tant que bâtiment. Ça va, je parle pas trop vite pour... hein, c'est bon? Ok? Quand ça va trop vite, tu lèves la main. Ok? N'hésite pas. Hein. Oui, toi, Reynald, faut juste prendre les médicaments. Toi, hein. Il y a beaucoup d'images qui décrivent ce qu'est l'Église. Alors, l'Église, pas en tant qu'institution, on n'aime plus trop ça, et à raison. Mais l'Église, le corps des croyants, l'épouse de Jésus-Christ, on pourrait dire, même si je ne vais pas parler de ça, l'image, mais c'est même pas l'image, la réalité qui englobe toutes les vérités sur l'Église, c'est l'épouse. En tant qu'épouse qui sera donnée à Jésus, on a tout là. Mais l'épouse, elle sera vraiment apparente au ciel. Sur terre, elle est fragmentaire, elle est en train de se préparer. Mais il y a beaucoup d'images qui décrivent ce qu'est l'Église, ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle est. Par exemple, l'Église famille. C'est probablement celle qu'on aime le plus. Hein? Parfois, le groupe de musique a de la peine à 10 heures, dire, allez, la famille, stop, on arrête là maintenant. On se donnera encore un bisou tantôt. On se prendra dans les bras tantôt. On prendra soin les uns les autres tantôt. La famille, arrête un petit peu maintenant. On s'approche de Dieu ensemble. La famille. Et c'est super. On a manqué à la famille. On a envie de revoir. Il y a les petits bébés dans la famille. C'est extraordinaire. Il y a le troupeau, il y a l'édifice, il y a la maternité, il y a l'école. Ok, tout ça fait partie de la description de l'Église. Mais nous, souvent, on s'arrête à ces vérités essentielles. Mais elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes. Et si on ne se focalise que sur elles, c'est même dangereux. C'est même dangereux. Parce que c'est incomplet. Avec ces images-là du troupeau, du petit troupeau qui reçoit le royaume, oui, c'est vrai, on ne va pas au bout des choses. L'Église est incomplète, elle est comme mutilée. Elle ne peut pas vraiment accomplir sa mission, elle ne peut pas vraiment guérir, elle ne peut pas être ce qu'elle est, solide. Avec ces images, on ne va pas au bout des choses. Qu'est-ce que je veux dire? Vous dites, mais où est-ce qu'il va? Je crois que toutes ces vérités, elles sont vraies. Mais, elles laissent l'Église très fragile. Si l'Église, c'est que juste se donner un petit bisou, se taper dans le dos, s'encourager, faire un barbecue, lire ensemble, chanter ensemble. Oui, c'est super. C'est super, c'est un avant-goût du ciel. Oui. Les agapes, on voit ça dans le Nouveau Testament. Oui. Mais, ça rend l'Église fragile, enfantine, un peu ado, quoi. Ou, je le dis autrement, amateur. Ça fait de l'Église un peu un club social, quoi. Le petit troupeau, la synagogue, l'école qui étudie. Une Église très, très amateur. Et avec cette visionnat de l'Église, on ne règle pas les choses en profondeur. Je fais exprès, je vois les regards, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous allez voir où je veux en venir. On ne règle pas les problèmes, nos problèmes, les problèmes ensemble, les problèmes de société. En fait, avec toutes ces dimensions-là qui sont certes vraies, il y a un impact tout à fait limité. Tellement limité. Je crois que très souvent, en tant qu'Église, on occulte une partie de la révélation. C'est comme si on mettait de côté une autre dimension de ce qu'est l'Église. Parce que l'Église, c'est aussi, et j'ai presque envie de dire aujourd'hui, primordialement, l'Église, c'est une armée. C'est une armée. L'Église, nous dit l'Écriture, nous dit Jésus, c'est un corps militaire, c'est un peuple de combattants, c'est un peuple de soldats, et on n'aime pas ces images. Oui, peut-être le soir, un bon film de guerre, pas l'Église. Quand on voit les informations, il y a suffisamment. Et pourtant, mes amis, si tu ne vois pas cela dans l'Écriture, tu vas passer à côté d'une partie importante de la révélation, d'un mandat important, de nos gènes, de notre ADN. L'Église, c'est vraiment une armée, c'est vraiment un corps militaire, un peuple de combattants, de vrais soldats. Et quand cette vision et quand cette mentalité, retenez ce mot parce que je vais y revenir souvent, quand cette mentalité fait défaut, c'est très nuisible pour l'Église. C'est très nuisible pour la garderie, pour la pouponnière qu'est l'Église. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. Parce qu'on devient aveugle sur une grande partie de la réalité. Être chrétien, c'est juste se donner des bisous. Se prendre un petit peu de jus, un petit peu de vin. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus. Et quand je néglige cela, je deviens aveugle sur la réalité. Quelque part, j'ai presque envie de dire, je vis dans l'irréel. Des églises bisounours. Je suis étonné de voir que Euro Disney ne sponsorise pas encore l'église. J'exagère, mais c'est pour vous piquer un peu. Hein. Je pense que c'est pour ça que l'engagement du disciple est si souvent aléatoire. Amateur, selon ma bonne volonté. Et c'est pour ça qu'on a des disciples qui sont des pâles copies de la réalité. On parle des livres des actes comme l'âge d'or, et quand on voit l'écart, mais pas chez nous bien sûr, chez les autres, hein, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je crois que la réalité, c'est que nous avons occulté, nous avons oublié que l'Église, oui c'est la famille de Dieu, c'est l'épouse, mais une épouse, nous dit l'Écriture, redoutable, vaillante, forte. Vous pensez que Jésus au ciel, dans sa gloire, va avoir une mémère qui ne pense qu'à se faire des ongles? Enfin, tant mieux, pas de souci pour les ongles, mais comprenez? Est-ce que vous croyez qu'il va avoir une église comme cela? Quand Jean voit l'église dans l'Apocalypse, mais il tombe comme mort. Elle est tellement glorieuse, tellement redoutable. Mais c'est nous. Mais pas seulement dans le futur, c'est nous maintenant. C'est déjà nous maintenant. Beaucoup de planning d'église, de stratégie d'église s'écroule et n'apporte aucun fruit parce qu'il n'y a pas la culture, la mentalité militaire. Et donc, j'aimerais pendant quelques temps développer en nous cette mentalité militaire. Alors, pas des militaires comme on voit à la télévision, mais des vrais combattants pour Dieu, des vrais soldats pour le Seigneur. Et toutes nos stratégies, je vais déjà partager cette citation, toutes nos stratégies s'écroulent quand il n'y a pas une culture d'eux. Je pense que l'Église deviendra forte et solide quand elle aura cette mentalité guerrière spirituellement. Alors, je sais, j'entends les dames qui disent, oui, mais, et nous? Je vais vous dire quelque chose, vous êtes des lionnes. Vous êtes des lionnes. Il y a des domaines où vous êtes tellement guerrières. Tellement guerrières. Ça nous concerne tous. Il n'y a pas que les musclés parmi nous. Spirituellement, on est tous appelés à devenir tellement, tellement forts, tellement conquérants. Alors, mardi, je continuerai, dimanche prochain, et on verra un peu le temps. Aujourd'hui, je plante le décor, je plante les tentes. Et chaque fois, ce que je voudrais voir, c'est, on va prendre chaque fois différents textes bibliques pour vous montrer que, ô combien c'est présent. Et chaque fois, je vais vous montrer la réalité biblique et puis développer une mentalité biblique. Ok? Alors, on va lire quelques textes ensemble ce matin. Et puis, quelques minutes avant de prendre la scène, je voudrais planter un peu la réalité biblique et développer une chose quant à la mentalité qu'il nous faut.
Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Enfin, mes frères et sœurs, Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Amen.
Merci Augustine. On aura l'occasion de lire des textes qui vont dans le même sens. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Ce n'est pas la seule réalité, mais ça fait partie de notre réalité. Il y a une réalité biblique de notre mandat militaire. Jésus disait aux disciples, je voyais, il rentrait de mission, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Et Jean résumait le ministère de Jésus en disant, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire. Bien sûr, le Christ a remporté la victoire, mais en attendant son retour, on est tous inclus dans une bataille cosmique contre des êtres mauvais, contre un système du monde mauvais et contre notre propre chair, que tu le veuilles ou non. Et j'aimerais nous dire que toutes les images du langage militaire, de conflits, d'armures, d'adversaires dans la vie du croyant, cela abonde dans les Écritures. Cela abonde. On retrouve cela un peu partout. Dès lors, la question n'est pas de savoir si toi tu es engagé dans cette bataille spirituelle. Ça, c'est pas la question. Peut-être certains disent, ah oui, mais les responsables, eux, et puis les responsables des différents départements, eux sont vraiment engagés. La question n'est pas de savoir qui est engagé, mais la vraie question est de savoir avec quelle ardeur nous sommes engagés dans le combat spirituel. Ça, c'est la seule question qui est à se poser, que tu le veuilles ou non, le jour où tu as mis ta foi en Jésus-Christ, que tu es rentré dans le royaume de Dieu, tu es rentré dans un combat qui nous dépasse, qui est bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Un combat contre des puissances mauvaises, contre une philosophie autour de nous qui s'oppose à Dieu, et contre notre propre nature qui s'oppose. Et ce combat, il est là, et ça sera jusqu'au bout. Oui, nous pouvons être vainqueurs, oui, très certainement, mais nous sommes engagés dans ce combat. Et l'idée maîtresse de cette réflexion, c'est que nous avons besoin de relever cette mentalité. De développer vraiment en nous cette réalité de notre existence. Elle doit impacter nos vies. Nous sommes vraiment devenus une armée. Regardez les textes. J'en ai choisi quelques-uns ce matin. Les textes de l'Exode. Moi, il me surprend toujours. Presque 2 millions de personnes vont sortir d'Égypte. Ils étaient quoi là-bas? C'était des esclaves. Ils étaient vraiment esclaves. Plus d'identité nationale. Ils sont à terre, ils ne veulent même plus sortir. Combien c'était difficile pour Moïse les convaincre? Mais même Moïse, pour lui, les carottes étaient cuites. 40 ans à Madian, c'était terminé. Israël va rester là. Mais quand ils sortent comme des esclaves. La preuve, c'est qu'ils veulent sans cesse retourner en Égypte. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que Dieu dit, vous sortirez encore, C-O-R-P-S, encore d'armée. Une armée, mais ça ressemble à tout sauf une armée, Israël. Et pourtant, Dieu dit, vous sortirez comme une armée. Mais on aura l'occasion de voir, c'est partout comme ça. On a médité les psaumes, j'ai pris un psaume tout à fait étonnant, au cœur de la louange, psaume 149, tu loueras Dieu dans ton lit, et la louange sera dans ta bouche, et l'épée à deux tranchants dans ta main. C'est quand même un peu étonnant d'aller se coucher avec l'épée à deux tranchants. Faut décoder, mais c'est vraiment l'idée que loue Dieu, mais en même temps, t'es engagé dans un tel combat, spirituel. Et nous sommes appelés à être un peuple de louange, d'adoration, de service, mais en même temps, un peuple tellement redoutable. L'épée à deux tranchants. Alors, pas pour décapiter les voisins, pas du tout, si vous croyez ça, peut-être ne repartez pas. Dernière lettre de Paul. Avant de mourir, avant lui d'être décapité, Timothée, oh mon fils bien-aimé. Occupe-toi de la garderie, de l'église. Crée une bonne ambiance. Non. Souffre avec moi comme un bon soldat. Souffre avec moi. Crée l'église. Bâtis l'église comme une famille. Cette colonne de la vérité, un peuple conquérant. La question n'est pas de savoir si tu veux ou pas faire partie du combat. Tu es dedans. Tu es dedans. Vous avez vécu des heures difficiles au pays. Vous faisiez partie d'une ethnie. Et d'office, hélas, les autres vous voyaient comme des opposants. Est-ce que tu sais qu'il y a vraiment des opposants pour toi, pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants? Nous, parfois, on est naïfs. On oublie ça. On oublie cela. Alors, je vous dis, toute notre vie n'est pas que combat. Ne faites pas. Mais parfois, il faut dire les choses massivement pour qu'un petit quelque chose reste. Donc, je suis conscient de ça. Je vais très loin, mais notre vie n'est pas qu'un combat, mais notre vie est un combat. Et que tu le veuilles ou pas, tu es dedans et tu as un ennemi. Et c'est vraiment dangereux de ne pas en tenir compte. Tu imagines si on te dit, voilà, dans la région de Charleroi, il y a quelques snipers. On ne sait pas où, mais ils vont tirer. Et toi, tu dis, je m'inquiète pas, moi, je vais me balader, jolie, place de la Digue, rue de Montigny. Souvent, l'église est comme ça. Un combat, mais on ne met rien en place suffisamment. Les vies ne sont pas impactées. Est-ce que nous sommes conscients, je parle aux parents, qu'il y a vraiment des entités spirituelles qui veulent tuer nos enfants? Est-ce que je suis conscient dans ma propre sanctification qu'il y a des forces en moi et autour de moi qui cherchent à neutraliser ma vie spirituelle? Pour certains disent, oh là là, lire ceci, pas de soucis, mais quand c'est la Bible, oh, c'est difficile. Parler avec plusieurs, dire, le dimanche matin c'est bizarre, en semaine c'est toujours paisible, mais le dimanche matin, que le conjoint est difficile. Combat spirituel. Et nous, on ne fait pas attention à ça. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin de développer une mentalité, une vraie discipline de vie, une vraie résistance, une vraie habileté dans le maniement des armes spirituelles et de compter sur les forces de Dieu. Je vais terminer. Je crois que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas convaincus de cela. Et on le voit. Si on regarde l'agenda, on voit que ce n'est pas une priorité. Et qu'il y a tellement de désinvolture dans les questions spirituelles. Nous croyons, la majorité des églises, des croyants, pensent que nous vivons en temps de paix et pas de guerre. Je prends un exemple. Une des armes les plus puissantes dans le combat spirituel, c'est la prière. L'une des plus grandes faiblesses de l'église européenne, la plus grande faiblesse, c'est la prière. C'est qu'on n'est pas conscient du combat. On n'est pas conscient du combat. On commence tout doucement à s'éveiller, difficilement. Dès qu'on pousse un petit peu, les jeunes, les responsables ici, ils exagèrent. Mais c'est notre arme, c'est notre vie. Et si la prière n'impacte pas ta vie, excuse-moi, tu es complètement aveugle. Complètement aveugle, complètement à côté de tes pompes. Tu te promènes à la place de la Digue, alors qu'il y a des snipers. Pas besoin de prier, toi, non. Allez, je termine par la mentalité biblique. À chaque fois, je vais poser un petit jalon. Alors aujourd'hui, une chose, je vais simplement dire. Comment développer cette mentalité? Une expression. D'abord, prise de conscience. Juste ça aujourd'hui. Prise de conscience. Il faut que nous prenions conscience de la réalité. Je crois que... Je ne veux pas aller trop vite parce que je crois que parfois, trop d'informations, ça tue la prise de conscience. On est noyé, tellement de choses. Et à la fin, on est informé, mais il n'y a plus de réelle prise de conscience. Chaque fois, on a des choses nouvelles. Et on ne prend plus conscience de la réalité. Et on court. Il est dit, à la fin des temps, ils auront la démangeaison d'entendre des choses. Donc, il ne faut pas de trop. Parce que ce que je reçois, il faut que ça trouve un terrain favorable. Jésus a dit, celui qui... Je vais vous montrer à quoi ressemble mon peuple sage. C'est ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Pas juste ceux qui entendent, qui ont des CD, qui... Non, ceux qui prennent conscience. Il y a un vieux mot dans l'écriture. C'était pas un terme seulement biblique. Qui devrait nous aider. C'est la métanoïa. Je l'explique. Jean-Baptiste a commencé en prêchant la métanoïa, la repentance. Jésus a prêché la repentance. C'est quoi la métanoïa? Noïa, ça vient de nous, en grec. L'idée, c'est les dispositions intérieures. C'est mon être intérieur. Il faut d'abord que dans mon être intérieur, il y ait une prise de conscience. Il n'y a pas de changement dans la vie si d'abord il n'y a pas une vraie prise de conscience. Je ne peux pas changer les choses convenablement si je ne suis pas conscient de la réalité. Je voudrais ce matin que tu prennes, que nous prenions conscience que l'Église n'est pas une crèche. Ce n'est pas l'école maternelle. Ce n'est pas un club social. C'est un corps militaire. C'est un escadron. Jésus était confronté à une légion. Ah, de l'autre côté, c'est bien organisé, les amis. C'est pas le Club Med. Hein. Il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Un peuple militaire. J'ai eu l'occasion de faire mon service militaire. C'est un peu brutal, quand même. Du jour au lendemain, terminez vos études, boum! D'abord, déjà, tu passes chez le coiffeur. Waouh! Ça décoiffe, hein. Alors, c'était toujours avant, salut, ça va, bonjour monsieur. Là, c'était, capitaine, au début ça fait un peu rire, quoi. Mais tu ris pas longtemps, hein, quand t'as fait l'andouille quelques fois, que tu nettoies les couloirs parce que tu... Et du jour au lendemain, tu as une autre mentalité, hein. Si tu fais l'andouille, c'est la cour martiale, c'est pas juste un gentil policier hein, qui va être bien compréhensif. Non, 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 on ne rigole plus. Hein. Et quand tu as fait le rigolo et que tous les autres tournent et que toi tu restes le week-end, tu dis, ah oui, c'est quand même autre chose ici. Hein. Ok, tu reçois ton fusil, le casque, les ABL, tu ne sais rien faire, hein, mais t'es quand même, tu vas apprendre, tu es devenu militaire, tu as une nouvelle carte d'identité. Il faut qu'on prenne conscience qu'on est vraiment... On n'est pas que ça, mais on est ça. L'armée du Seigneur devrait... S'ouvre avec moi, dira Paul. S'ouvre avec moi, comme un bon soldat. La première fois que Jésus parle de l'Église, c'est un contexte de combat. Les portes du séjour des morts ne vont pas assaillir les... Parce qu'il y a un vrai combat. Ce qui veut dire... qu'on n'est pas devant des options. Pardon, le Seigneur a parlé du pardon pendant trois dimanches. Et les amis, ce n'est pas une option, hein. C'est une obligation. Dans la troupe, comment tu veux conquérir si, dès que l'occasion se présente, tu vas tirer sur ton propre partenaire en disant oh, « Tu m'as fait ça, ben moi je te fais ça. » Tu imagines, là. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Espoir a parlé de la mort du vieil homme. Et nous, en tant qu'Église, on voit ça comme une œuvre saisonnière. Quand on le sent, c'est pas une option. Parce que si tu le laisses prendre la direction, tu vas au casse-pipe. Il était question de la plénitude de l'esprit. Oh, c'est pas pour quelques petits intérêts de l'Église. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. Waouh ! Prise de conscience. J'aimerais que dans les jours qui viennent, nous puissions nous placer devant Dieu. Seigneur, fais-moi prendre conscience de la réalité. De la réalité. On cherche à nous distraire. On peut avoir des loisirs, mais l'ennemi entoure notre société. Entoure notre société. Notre nation a vécu pendant la Coupe du Monde. Voilà, on était là. Ce n'est pas la vie. Hein. Okay, c'est chouette. Hein. Mais il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut avoir 6000 personnes place de la digue. Et on abreuve. Je vous lis un extrait d'un livre qui m'avait interpellé. Je termine vraiment avec ça. Peut-être les musiciens, vous venez. On termine. On va prendre ça. Jonathan Edwards, plusieurs le connaissent. Un homme de réveil puissant des siècles passés. Philosophe, théologien, pasteur de l'Amérique d'autrefois. Écoutez bien. Il avait pris 70 résolutions de discipline spirituelle. 70 résolution de discipline spirituelle personnelle et de conduite. Et quelle discipline ? Comparée aux mesures que Jonathan Edwards s'est imposées, les nôtres paraissent bien pâles et d'un niveau tellement élémentaire. Mais il les a fait précéder de ces mots. Il a dit ceci. Mesurant à quel point je suis incapable de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu, je le supplie humblement pour l'amour du Christ de me rendre capable par sa grâce de me tenir à ces résolutions dans la grâce et dans la mesure où elles sont conformes à sa volonté. Et quand vous lisez les biographies de Jonathan Edwards, il témoignait qu'il s'astreignait à une discipline de vie rigoureuse et qu'il le faisait comptant sur Dieu. Combien les vies chrétiennes aujourd'hui semblent tellement à l'opposé, quoi. À en s'être discipliné pour son régime, pour son sport, pour son boulot. Demain, à 8h, tu seras là à l'heure. Et on n'est pas foutu d'être un culte à l'heure. Oui, mentalité. Bon, que Dieu soit déjà content, je vais venir 1h30. C'est notre vie, ça. C'est notre combat. C'est... Prise de conscience. Levons-nous ensemble. On va, pendant ce chant, on va laisser descendre ces choses avant de prendre le repas.